démarre d'en dessous, ouais. Réalise les sous. Ouais.
Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, au sommaire en cette matinée du lundi 3 juin 2024. Un employé européen d'une organisation non gouvernementale placé en détention en République centrafricaine soupçonné de constituer une menace pour la sécurité de l'État. En Afrique du Sud, plus de majorité absolue pour le parti au pouvoir depuis 30 ans, une première. Le président Cyril Ramaphosa appelle toutes les forces politiques à travailler ensemble. Les États-Unis disent s'attendre à ce qu'Israël accepte le plan de paix pour Gaza si le Hamas le fait. Et puis au Gabon, la suspension provisoire des partis politiques n'a pas fini d'irriter la classe politique.
S'ils se rendent compte qu'un groupe d'individus exclut un autre groupe d'individus, c'est à eux de dire que ça ne correspond pas à leur éthique.
L'intégralité à venir dans la partie magazine de cette édition. En sport, nous revenons entre autres sur le sacre de Petro de Luanda dans la Basketball Africa League. C'est dans un peu plus de 10 minutes, juste après l'économie, mais d'abord le journal. En République centrafricaine, le parquet a annoncé avoir placé en détention un employé européen d'une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis. Il est soupçonné de constituer une menace pour la sécurité de l'État et de chercher à inciter à la révolte contre les forces de sécurité. Le point avec Claire Morin-Gibou.
Dans une déclaration lue à la télévision d'État vendredi, le procureur général de la capitale Bangui a indiqué que Martin José Figueira possédait des passeports portugais et belges et qu'il avait été placé en détention le 25 mai après l'ouverture d'une enquête. Le procureur n'a pas donné de détails sur les charges retenues, mais a accusé Figueira d'être en contact avec des groupes armés. Il a déclaré que Figueira travaillait pour l'ONG de santé publique FHI 360. Un consultant de FHI 360 travaillant à la conception d'un programme de développement communautaire a disparu à Zemio, en République centrafricaine, le dimanche 26 mai, a alerté hier une porte-parole de l'organisation. Nous avons confirmé que notre consultant est maintenant sous la garde du gouvernement de la RCA. Nous n'avons pas d'autres informations à partager pour le moment, a-t-elle ajouté. La diplomatie portugaise a confirmé ce week-end qu'un citoyen belgo-portugais travaillant pour une ONG américaine a été arrêté parce qu'il est soupçonné d'être impliqué dans un complot contre le régime. Nous savons également qu'il a été entendu par les autorités. Nous attendons l'évolution de l'affaire. Le numéro 2 de l'ambassade à Kinshasa en RDC voisine a rendu visite à ce citoyen, de même que le consul honoraire de la RCA a déclaré un porte-parole.
En Afrique du Sud, l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans, a perdu sa majorité absolue au Parlement pour la première fois de son histoire, ne recueillant que 159 sièges sur 400 selon la commission électorale. L'ANC a annoncé des discussions avec d'autres partis politiques pour former un gouvernement de coalition. Davantage avec Nani Talani.
L'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, a obtenu 87 députés contre 49 parlementaires pour le nouveau parti mené par l'ex-président Jacob Zuma, qui devient la troisième force politique du pays. Le président Cyril Ramaphosa a salué une victoire pour la démocratie avec ses élections législatives qu'il a qualifiées de libres, équitables, crédibles et pacifiques. Il a rappelé que les Sud-Africains attendent des partis pour lesquels ils ont voté, qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences, qu'ils agissent et travaillent ensemble pour le bien commun. Bien qu'ayant perdu la majorité, son parti, l'ANC, reste le plus important parti au Parlement qui sera chargé d'élire le prochain président courant juin. Les partis politiques ont désormais 2 semaines pour parvenir à un accord avant qu'un nouveau Parlement ne siège pour choisir un président. L'ANC a déclaré son intention de discuter avec d'autres partis politiques pour forger des alliances, soit pour former un gouvernement de coalition, soit pour persuader d'autres partis de soutenir la réélection de Cyril Ramaphosa et constituer un gouvernement minoritaire de l'ANC.
L'Égypte a accueilli hier au Caire une réunion avec des responsables israéliens et américains pour la réouverture du passage frontalier de Rafah, crucial pour l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. C'est ce qu'a annoncé un média égyptien. Les précisions de Gabi Dorsil.
À l'occasion de cette rencontre, le Caire a réitéré son refus de voir le côté palestinien du point de passage de Rafah contrôlé par Israël, selon un haut responsable cité par un média proche du renseignement égyptien. La délégation égyptienne a déclaré être ouverte à la présence d'observateurs européens à la frontière pour superviser son fonctionnement par les autorités palestiniennes si celles-ci acceptaient de reprendre les travaux. Elle a aussi évoqué encore la nécessité d'un retrait israélien du côté palestinien du passage de Rafah pour une reprise de ses activités, faisant porter à Israël l'entière responsabilité du blocage de l'aide humanitaire. Le Caire a réitéré le besoin d'œuvrer immédiatement pour faire entrer quotidiennement dans la bande de Gaza au moins 350 camions d'aide, qu'il s'agisse d'une assistance alimentaire, médicale ou du carburant. Les responsables israéliens et américains ont promis de s'employer rapidement à lever les obstacles au fonctionnement du point de passage.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a pressé dimanche le Hamas d'accepter le plan israélien en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, où Israël poursuit ses frappes. Le secrétaire d'État a salué la volonté d'Israël de conclure un accord et a affirmé qu'il incombe au Hamas de l'accepter, a déclaré son porte-parole Matthew Miller après un appel téléphonique de M. Blinken au ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Les deux responsables se sont appelés pour parler de la proposition de parvenir à un cessez-le-feu plein et entier dans la bande de Gaza en échange de la libération des otages du Hamas, selon M. Miller. Des bombardements israéliens meurtriers ont continué dimanche de cibler la bande de Gaza après bientôt 8 mois de guerre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump, déclaré coupable par un jury new-yorkais, a affirmé dans une interview diffusé dimanche qu'une peine de prison pourrait être un point de rupture pour ses soutiens. Le candidat républicain à la présidentielle de novembre a averti qu'une peine de prison serait compliquée pour le public à accepter. Pour l'élu démocrate Adam Schiff, par ses propos, Donald Trump incite clairement à la violence une fois son jugement connu. L'un des fils de l'ex-président Eric Trump a lui estimé que l'affaire était en train de faire de son père un martyr. Au terme de 6 semaines de débat au tribunal de Manhattan, un jury a reconnu Donald Trump coupable de 34 chefs d'accusation de falsification comptable pour des paiements fin 2016 à l'ancienne actrice de film ex Stormy Daniels pour qu'elle taise une relation sexuelle qu'elle dit avoir eu avec lui en 2006. Trump nie catégoriquement cette relation. États-Unis toujours, le procès du fils du président Joe Biden, Hunter Biden, pour détention illégale d'armes s'ouvre ce lundi devant un tribunal fédéral. Hunter Biden, 54 ans, est accusé par des procureurs fédéraux d'avoir menti en remplissant des formulaires pour l'acquisition d'un revolver en 2018, dans lesquels il y a une addiction à la drogue qu'il a reconnue par la suite. Par ailleurs, inculpé pour fraude fiscale dans un autre dossier, il se défend ici de 3 chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé non coupable en octobre. Un jury de Wilmington, le fief de Biden dans l'État du Delaware, devra se prononcer sur 2 chefs portant sur le remplissage possiblement frauduleux de documents nécessaires à l'achat d'une arme à feu et un 3e sur la possession illégale de cette arme. Au Mexique, la candidate de la gauche au pouvoir et ex-maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a remporté l'élection présidentielle d'après une enquête de l'Institut Encol. Première enquête sortie des urnes relayée par des médias, Sheinbaum, 61 ans, l'emporte avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de centre-droit, Xochitl Galvez. Les Mexicains ont voté aussi pour le Congrès et le Sénat, les gouverneurs dans 9 des 32 États, des députés locaux et des maires. La rédactrice en chef du Washington Post, Sally Boothby, a démissionné, a indiqué le patron du prestigieux quotidien américain. Madame Boothby, journaliste chevronnée de l'agence américaine Associated Press, AP donc, était devenue en 2021 la première femme à occuper ce poste depuis la création du titre en 1877. Matt Murray, ancien rédacteur en chef du Wall Street Journal et ex-PDG de Dow Jones, prend sa suite jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre, a indiqué le président directeur général du poste William Lewis. Aucune raison n'a été communiquée pour expliquer le départ de Mme Boothby. Dans un email au personnel, M. Lewis a aussi annoncé souhaiter le lancement cette année d'une nouvelle division distincte de la rédaction historique et consacrée au journalisme de service et au journalisme sur les réseaux sociaux qui recourra à l'intelligence artificielle.
Après 18 mois d'escalade nucléaire, les Européens ont décidé, malgré les réticences américaines, de soumettre une résolution condamnant le manque de coopération de l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'ouvre ce lundi à Vienne. Des diplomates invoquent l'urgence à réagir devant la gravité de la situation. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran est le seul pays non doté de l'arme atomique à enrichir l'uranium au niveau de 60% et à accumuler des stocks toujours plus importants. Ce seuil est proche des 90% nécessaires pour élaborer une bombe. Il se situe au-delà du plafond autorisé de 3,67%, équivalent à ce qui est, utilisé pour la production d'électricité. Lors de la dernière réunion de mars, Londres, Paris et Berlin avaient préparé un texte avant de renoncer, faute de soutien de Washington. En Syrie, au moins 12 combattants pro-régime ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par une frappe israélienne visant une usine d'une localité près d'Alep, dans le nord du pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans un communiqué, le ministère syrien de la Défense a indiqué qu'après minuit, l'ennemi israélien a lancé une attaque aérienne depuis le sud-est d'Alep, ciblant certaines positions à proximité d'Alep, ajoutant que l'agression a fait plusieurs martyrs et des dégâts matériels. Parlons économie à présent, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barche.
Dans un rapport intitulé « Sur la piste de l'or africain », l'ONG Swiss Aid indique que des centaines de tonnes d'or non déclarées quittent annuellement le continent africain vers Dubaï, avant d'être exportées légalement vers d'autres pays. Entre 321 et 474 tonnes d'or artisanal sont exportées en contrebande, ce qui représente entre 24 et 35 milliards de dollars. Selon l'ONG, le phénomène a plus que doublé en une décennie. L'or est la principale source de recettes de certains États africains, mais finance aussi les groupes armés, cause des violations des droits humains et la dégradation de l'environnement, pointe Swiss Aid. L'ONG estime qu'en 2022, plus de 66% de l'or importé aux Émirats Arabes Unis en provenance d'Afrique a été exporté en contrebande des pays africains. Il arrive par avion à Dubaï, en bagage à main ou en soute, sur des vols de ligne ou en jet privé, précise-t-elle. À partir de là, l'or africain est envoyé principalement vers la Suisse, deuxième plus grand pays importateur d'or africain après les Émirats, et aussi vers l'Inde. La législation helvétique fait du dernier lieu de transformation de l'or son lieu d'origine, de sorte que l'or qui arrive en Suisse n'est pas tracé comme provenant d'Afrique, explique le rapport. Le continent est le principal producteur d'or au monde, avec le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina Faso en tête de la production.
Comme chaque lundi matin, les nouvelles sportives nous viennent de Boïko au Bénin, vous l'aurez compris. Nous retrouvons Élisée Nkwatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Yakuba et bonjour à tous.
Direction le Mali, le Stade malien remporte la Coupe nationale.
Le club de Sotouba a soulevé facilement sa 23e Coupe nationale en étriant Afrique Foot Elite sur le score de 4-0. Un match gagné tactiquement par le technicien Mamadou Kané Moulé, très heureux au micro de Siaka Traoré.
L'envie de gagner le match, ils ont compris qu'est-ce qu'il faut faire, engager, déterminer, il faut accepter de courir. Ils ont accepté de courir, et la course nous a donné, club en première mi-temps et 80 buts, parce qu'ils étaient fatigués également. Les joueurs ne doivent pas remporter une Coupe du Mali, c'est les joueurs qui doivent remporter. On a remporté, je suis très fier. On est venu pour gagner et on a gagné, c'est tout. Mais la Coupe, ça se joue pas, ça se gagne.
Mamadou Moulé, entraîneur du Stade malien, interviewé par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Ce sacre permet aux Blancs de Bamako de disputer la saison prochaine la Coupe CAF.
Fin de saison en Afrique du Sud avec la finale de la Coupe nationale également.
Et le tenant du titre, Orlando Pirates, garde son trophée pour la deuxième fois de suite en disposant des Mamelodi Sundowns qui ont remporté la semaine dernière le championnat. Le club de Soweto, qui s'offre sa 10e coupe, prive donc celui de Pretoria du doublé suite à sa victoire de 2-1 dans une finale palpitante.
Football toujours en Europe, le Real Madrid continue d'écrire l'histoire.
Oui, en remportant sa 15e Ligue des champions, après avoir battu le Borussia Dortmund 2-0 au stade de Wembley, grâce aux réalisations de Dani Carvajal et de Vinicius. Mais que de regrets pour les Allemands qui se sont montrés plus dangereux en bousculant les coéquipiers du Marocain Brahim Diaz, d'où la déception de l'attaquant ivoirien Sébastien Haller.
On a fait un beau match, malheureusement c'est la chose la plus importante qu'il fallait faire dans le match, c'était concrétiser et vraiment mettre le point final à cette domination. Mais et voilà, c'est ce qu'on a peut-être manqué, mais ça sera, on l'espère, pour une prochaine fois. C'est des détails, c'est ça, c'est ce qui fait l'histoire, c'est ce qui change tout. Le football, c'est ça.
L'attaquant ivoirien Sébastien Haller.
Balle au panier pour finir avec l'épilogue de la Basketball Africa League à Kigali, au Rwanda.
Enfin, c'est la bonne pour le Petro Atlético de Luanda. Troisième lors de la première édition, deuxième l'édition suivante et quatrième l'année dernière, les Angolais montent finalement sur la plus haute marche du podium. Les coéquipiers de Carlos...
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouédraogo, toujours avec vous, pour vous présenter les dossiers du jour. Au Gabon, la suspension provisoire des partis politiques n'a pas fini d'irriter la classe politique un mois après la fin du dialogue national convoqué par les militaires au pouvoir. Les voix d'anciens dignitaires du pouvoir et d'anciens candidats à la présidentielle d'août 2023 se font entendre, toutes ou presque, rejettent les recommandations issues de ces assises. Beaucoup redoutent désormais les dérives autoritaires du nouveau pouvoir. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangzi.
L'heure est grave. S'indigne le leader du Parti social-démocrate, Pierre Claver Mangaga Moussavo, pointe du doigt la gestion du dialogue. Selon lui, ces assises ont débouché sur un échec des réconciliations nationales.
Ils ont manqué l'occasion là d'unir les Gabonaises et les Gabonais. Parce que c'est leur mission. S'ils se rendent compte qu'un groupe d'individus exclut un autre groupe d'individus, c'est à eux de dire que ça ne correspond pas à leur éthique. Réunir 600 personnes après leur avoir dicté ce qu'ils avaient à faire, c'est bien. Mais un évêque doit prendre ses responsabilités et refuser l'ostracisme.
Dans une récente déclaration écrite, le dernier Premier ministre Adali Bongo démonte point par point les résolutions des dites assises à Alain-Claude Biliwezé.
Des choses ont été reprochées à ma gouvernance. Mais pourquoi n'ai-je pas été appelé à Ngongé en tant qu'ancien Premier ministre pour qu'on me demande qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas ci et ça? C'est ça qui aurait permis aux Gabonais de se parler et de sortir réconciliés. Ça n'a pas été le cas. La transition doit donner l'opportunité de corriger les erreurs du passé, tous ensemble, et de regarder comment demain peut s'écrire. Je n'ai pas dit qu'on doit participer aux responsabilités demain.
8 mois après l'avènement au pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions, Albert Ondossa sort de sa réserve. Le principal challenger d'Ali Bongo, lors de la présidentielle d'août 2023, pense que les conclusions du dialogue n'engagent que ce qui y était.
Je préfère publiquement marquer ma désapprobation afin de prévenir toute dérive autoritaire du CTRI qui nous renverrait aux méthodes anciennes que nous avons abondamment dénoncées lors de la dernière campagne électorale. À cet égard, j'ai pris le temps de suivre et d'analyser les déclarations des présidents des différentes commissions. J'en suis malheureusement arrivé à la conclusion que rien n'a bougé ni évolué dans le bon sens, autrement dit, dans l'intérêt central du peuple.
Pour rappel, toutes les recommandations du dialogue sont en cours d'examen au sein des organes de la transition pour un suivi et évaluation avant leur mise en application. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Cameroun, le gouvernement s'attelle à doter les localités impactées par les exactions de Boko Haram d'infrastructures de base. C'est notamment le cas de la localité de Ouaza dans la région de l'extrême nord, frontalière du Nigeria. La commune de Ouaza vient de bénéficier d'un réseau d'adduction en eau potable, jadis une denrée rare, de Yaoundé. Notre correspondant Emmanuel Jelentap.
Un air de fête à Ouaza, lors de la mise en fonction des points d'eau potable au profit des habitants de ce grand quartier de cette commune, dans la région de l'extrême nord. C'est aussi la fin d'un long calvaire pour Adeline Wadjiri, une résidente de Ouaza depuis 1985.
On partait à des kilomètres pour aller puiser de l'eau dans des puits. À partir de chez moi jusqu'au point de ça peut faire 1200 mètres. C'était vraiment difficile. Les enfants dormaient dans des points. Vous partez à 4 heures pour revenir peut-être le lendemain dans les environs de midi ou 13 heures avec 8 bidons d'eau. Avec le plus grand château qu'on a réceptionné aujourd'hui. C'est vraiment un soulagement.
Abdelaziz est aussi un homme heureux. Le quartier de ce sexagénaire a été doté d'une borne fontaine. 6 ans après le lancement du projet de construction du réseau d'approvisionnement d'eau potable à Ouaza.
Avec cette eau-là, on est au carrefour, des 3 carrefours. Il y a les nomades qui viennent chercher l'eau ici, avec leurs bœufs et leurs moutons. Et vraiment, l'eau-là, c'est la vie.
La commune de Ouaza a payé l'un des plus lourds tributs des exactions de Boko Haram. Pour cette première phase de projet, dont le coût est évalué à 1,2 milliard de francs CFA, la commune a bénéficié d'un champ solaire pour renforcer la fourniture de l'eau énergétique dans une vingtaine de villages environnants. Zoutene Doufene, directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire.
L'arrondissement de Ouaza est un arrondissement directement affecté par les exactions de la secte terroriste. À cela s'ajoutent donc les contraintes liées au climat, au relief, qui rendaient l'accès à l'eau très difficile. Donc cette réalisation de l'adduction de Ouaza vient soulager énormément les populations. Aujourd'hui, avec cette eau, elles peuvent mener des activités socio-économiques.
Au total, 31 km d'un réseau de distribution d'eau vont être construits à Ouaza. Un investissement qui apporte une solution au phénomène de déperdition scolaire. Ibrahim Mohamed, maire de Ouaza.
Et les enfants, ils ont abandonné l'école. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas l'école, parce que pour aller chercher l'eau, pour amener à leurs parents. Pour chercher l'eau, c'est où? À 20 km. 20 km, j'ai dit ça à haute voix.
Le gouvernement entend résorber le problème d'addiction en eau potable dans tout l'arrondissement de Ouaza, avec la mise en place d'un forage équipé d'un système de pompage solaire construit dans le parc national de Ouaza. Hamad Tom, sous-directeur des infrastructures au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
L'ensemble du projet, c'est pour un montant total de 4 milliards. Mais déjà, cette première phase couvre toute la ville de Ouaza et ses environs. Maintenant, les autres phases permettront de couvrir tout l'arrondissement jusqu'à la zone de Zigagé.
Ce projet prévoit aussi la construction d'un petit système d'adduction pour satisfaire les besoins en eau potable dans 3 localités situées à 40 km au nord de Ouaza. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Nigeria, la crise économique la plus grave que connaît le pays depuis une génération est à l'origine d'une détresse et d'une colère généralisée. Certains Nigériens exigent un changement de politique de la part du gouvernement un an après que les autorités se sont engagées dans des réformes économiques audacieuses mais peu appréciées. Le président Bola Tinubu a jusqu'à présent refusé de changer de stratégie, insistant sur le fait que ces réformes permettront d'améliorer l'économie nigériane en difficulté. Suivez ce reportage de Timothy Obiezu, réalisé à Abuja. Le récit est de Thierry Kaori.
Tout a commencé le 29 mai 2023, lorsque Bola Tinubu a été investi 16e président de la nation la plus peuplée d'Afrique. Dans sa campagne électorale intitulée « Espoir renouvelé », le soi-disant parrain politique de Lagos promettait la croissance économique, la sécurité, la création d'emplois, la sécurité alimentaire et un leadership inclusif. Mais un an après, de nombreux Nigériens qui l'ont soutenu, comme la commerçante Joli Ginekanwa, estiment que son approche est défaillante.
Nous souffrons. Tinubu devrait faire quelque chose. C'est au moins un être humain. C'est lui qui dirige ce pays. Il n'est pas venu pour détruire ce pays, mais pour prendre soin de nous. Nous souffrons. Les enfants pleurent. Les adultes pleurent.
Peu après son entrée en fonction, le président Tinubu a introduit des mesures controversées, notamment la suppression des subventions au carburant versées depuis des décennies et le flottement du Naira par rapport aux autres monnaies du monde. Les prix des transports et des denrées alimentaires ont grimpé en flèche, entraînant un taux d'inflation annuel de 34%, alors que le chef de l'État a assuré aux Nigériens qu'il allait lutter contre l'inflation et relever les défis économiques. Le président a annoncé la gratuité des transports en train pendant 6 mois lors de l'inauguration d'une nouvelle station de métro à Abuja pour marquer sa première année au pouvoir. Il a également annoncé le lancement de plusieurs projets de développement, mais les critiques disent que le gouvernement est irresponsable et qu'il se plie à l'influence étrangère. Eze Onyekwere est le fondateur du Centre pour la justice sociale.
Il était extrêmement et fondamentalement incorrect d'annoncer à la cérémonie de prestation de serment que les subventions étaient supprimées alors que vous n'aviez ni ministre ni conseiller. Avant d'annoncer cette politique, il aurait fallu qu'il y ait des gens dans un comité pour faire des calculs et des projections.
La situation sécuritaire du Nigeria ne cesse de se dégrader sous la présidence de Tinubu. Selon Bacon Security Consulting Limited, le nombre d'attaques terroristes et criminelles a atteint près de 8 000 l'année dernière contre 5 500 l'année précédente. Selon Onyekwere, l'absence de responsabilité est la raison pour laquelle les problèmes de sécurité persistent.
La politique l'emporte toujours sur la gouvernance, en particulier dans le domaine de la sécurité. Combien de ces bandits ont été capturés, jugés, poursuivis et condamnés pour que les gens puissent les voir?
Les syndicats de travailleurs nigériens menacent de protester si le président ne revient pas sur sa politique en matière de subvention du carburant et de devises d'ici la fin du mois de mai. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils continueront à rappeler au président ses promesses électorales de rendre le pays plus sûr et plus prospère.
Au Soudan, les humanitaires de l'ONG Alima sont les premiers à organiser une campagne de vaccination pour les populations déplacées à El Fasher. Face à une crise humanitaire croissante, ils offrent des soins médicaux, du matériel essentiel et un soutien aux structures locales malgré les moyens limités. Pour en parler, Eric Manirakis a joint à Dakar le docteur Sekou Kondé, chef de mission Soudan pour Alima.
Effectivement, Alima est toujours en ligne de front, en train de dérouler ses interventions de santé et de nutrition à l'endroit des populations dans le besoin et qui sont en majorité des déplacés suite au conflit qui a éclaté depuis avril 2023. Et nous délivrons des soins aux femmes et aux enfants qui sont en premier lieu les plus vulnérables. Et actuellement, nous intervenons au niveau des structures primaires, c'est-à-dire les soins de santé primaires, dans les camps des déplacés, par exemple au nord Darfour, où nous avons été la première organisation à organiser une campagne de vaccination à l'attention des populations déplacées dans le camp, et notamment pour les enfants de moins de 5 ans.
Quelles sont les principales limites et contraintes que votre ONG rencontre dans ses efforts pour fournir une aide humanitaire efficace et quelles mesures ou actions supplémentaires pourraient être prise par la communauté internationale pour améliorer la situation de ces personnes vulnérables?
Les contraintes majeures actuellement se situent au niveau de l'accès humanitaire. Premièrement, l'accès d'abord au pays, c'est-à-dire que quand on a des équipements médicaux, des produits pharmaceutiques qui sont commandés à l'extérieur, et la plus grande contrainte auquel on est confronté, c'est comment les acheminer dans le pays. Donc, du coup, on a des difficultés à faire traverser ces intrants à travers les frontières au niveau desquelles les conflits ou les combats continuent actuellement. Ça, c'est un peu dans la stratégie de ce qu'on appelle l'opération transfrontalière. Et malgré cela, Alima a réussi à faire rentrer quand même un gros camion à partir du Tchad, renforcer ses capacités dans la ville de El Fasher.
Oui. Quelles sont les conditions de vie des populations récemment déplacées que vous assistez et quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent en matière de santé, de nutrition et de sécurité alimentaire?
À l'état actuel des choses, très peu d'ONG sont restées sur place. Et donc, là où les populations, surtout les déplacés internes, étaient établis dans les camps, et ces camps sont actuellement, disons, démobilisés et déstructurés, et donc les populations courent dans tous les sens. Du coup, l'assistance que la population recevait dans ces camps, la population n'a plus accès à cette assistance-là.
Docteur Sekou Kondé, chef de mission Soudan pour Alima, joint à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, à la réalisation Sims Loumami. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos plateformes sociales Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.